Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur web préféré et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Vous pouvez ainsi nous retrouver sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 4 juin 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org et vous pouvez trouver d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons exceptionnellement par notre sujet principal qui portera sur Framasoft avec Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association, ce qui lui permettra de prendre ensuite son train et d'être à l'heure pour sa conférence à Lyon ce soir. D'ici trois quarts d'heure, nous aurons une présentation d'Open Academy avec Étienne André, qui est fonctionneur intrapreneur dans une start-up d'État, donc il nous expliquera un petit peu ce que c'est que ce terme. En fin d'émission, nous aurons un petit portrait de Patrick Sins, qui vient de nous quitter malheureusement. Pierre Fichu, informaticien, nous parlera de Patrick. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, avant de commencer, je vais vous poser un petit quiz comme la semaine dernière et je donnerai les réponses en cours d'émission. Alors, vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit sur les réseaux sociaux, dont avec les comptes april.org sur Twitter ou encore poète.april.org sur Mastodon. Alors, les deux questions. Dans l'émission de la semaine dernière du 28 mai 2019, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle ? Deuxième question. Que se passe-t-il à Celles-sur-Cher ce week-end en lien avec le logiciel libre ? Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par un échange avec sur Framasoft, avec donc Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Frédéric.
Alors, émission un petit peu exceptionnelle, parce que comme je l'ai dit, tu as un train à prendre pour donner une conférence ce soir à Lyon, ouais. Donc on commence par le sujet long. L'idée, c'est un petit peu de mieux faire connaître l'association, alors à la fois ses projets, mais les gens les connaissent plutôt pas mal, ou en tout cas, on connaît un certain nombre, mais aussi un petit peu de revenir sur ce qu'est Framasoft, l'historique, le mode de fonctionnement, et puis les projets. Alors d'abord, première petite question, à titre déjà personnel, est-ce que tu peux te faire une petite présentation sur ton parcours?
Ouais, donc voilà, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, j'ai 42 ans, ça doit faire maintenant... Oui, tout ça, 42. Et ça doit faire à peu près 15 ans que je suis dans Framasoft. Et ça fait 11 ans que je suis salarié de l'association. Donc moi, je suis venu au logiciel libre pendant que j'étais objecteur de conscience, hein, d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, vu que c'était le temps où on faisait le service militaire. Et quand j'ai découvert le logiciel libre, je me suis assez vite intéressé à ce que c'était, aux valeurs que ça portait. Et voilà, dans mon parcours, je me suis assez vite rapproché de la communauté Framasoft. J'en ai été... j'étais secrétaire de l'association pendant quelques temps, et puis le premier salarié, et maintenant directeur, vu que nous sommes 9 salariés dans l'association.
D'accord. Alors, imaginons que tu sois une soirée ou ailleurs, comment tu présenterais Framasoft en une ou deux phrases, avant qu'on rentre dans le détail?
Je peux te la faire en une phrase.
En une phrase.
Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Tu noteras qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans.
J'ai bien noté qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans, mais peut-être que la partie libre est un prérequis nécessaire et évident, mais on y reviendra. Alors, Framasoft, on va parler un petit peu de la naissance de Framasoft, parce qu'aujourd'hui, ouais. Beaucoup de gens connaissent quand même Framasoft, mais peut-être ne se souviennent-ils pas d'où ça vient. Donc, à quel moment a été créé Framasoft et que veut dire Framasoft? Parce que hier à table avec d'autres libris, j'ai posé la question et en fait, personne ne connaissait la réponse, à part moi ou peut-être une autre personne. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où, quand a été créé Framasoft, par qui et que signifie Framasoft?
Bien sûr. Donc, Framasoft est un projet qui est né en 2001. Ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet, qui signifiait français et mathématiques sur intranet. Ça avait été créé par deux enseignants, Caroline Datacabion, qui a depuis créé le site Weblettre, qui sert notamment aux enseignants de français, et Alexis Kaufmann, qui était donc le fondateur de Framasoft, et qui avait créé au sein de ce site Framanet une page autour des logiciels pour l'enseignement. Donc on est vraiment une association qui est issue du milieu de l'enseignement. Et voilà, ensuite, en 2004, s'est montée une association.
Donc la création, c'est quelle année ?
Le projet est né en 2001, l'association a été créée en 2004.
D'abord, un projet informel avec un site web et ensuite l'association en 2004.
Exactement, un projet au départ purement pratico-pratique, complètement dans le fer, monté par deux enseignants. Et ensuite, une association créée par trois enseignants, Alexis Kaufmann, Georges Da Silva et Paul Lunetta. Voilà. Et moi, je suis arrivé en 2005.
Toi, tu es arrivé en 2005. Donc, 2001, ça fait maintenant 18 ans.
18
ans.
Une longue période.
Ouais.
Ça remonte à loin.
Alors, historiquement, quels ont été les projets de Framasoft, les premiers projets de Framasoft ?
Le premier projet de Framasoft est celui qu'on continue à maintenir, même s'il est moins visible aujourd'hui, c'est l'annuaire de logiciels libres. C'est-à-dire que la page Framasoft qui listait des logiciels au sein de ce site qui s'appelait Framanet est devenue assez vite relativement importante en nombre de logiciels. Il faut savoir que jusqu'en 2004-2005, ça n'était pas que des logiciels libres, c'était vraiment des logiciels à la fois libres mais aussi des logiciels gratuits qui pouvaient aider les enseignants à mieux pratiquer leur démarche d'enseignement. Et il y a eu une rupture assez forte au bout d'un moment, une prise de conscience partagée par Alexis Kaufmann et par d'autres de dire ce qui compte dans tous ces logiciels, c'est finalement qu'on puisse les réutiliser, les partager, les copier, voilà, sans être limité par des problématiques de droit, de prix, ce qui était relativement important dans le milieu enseignant, puisque c'est pas toujours facile de pouvoir acheter des logiciels. Et donc l'idée du partage à la fois du savoir et des logiciels s'est rencontrée à ce moment-là et l'annuaire est devenu un annuaire exclusivement basé sur du logiciel libre et faisant la promotion exclusivement de logiciels libres.
Et il y avait combien de logiciels qui étaient référencés à cette époque ?
Alors, au tout début, c'est monté petit à petit. Donc en 2004, il devait y en avoir un petit peu plus de 200, je crois. Le plus haut qu'on ait eu sur l'ancienne version du site, qui était un site sous SPIP, je crois que c'était 1200 logiciels libres. Et on a rebooté cet annuaire maintenant.
Rebooté ? Oui, c'est quoi cette expression ?
Ben, tout simplement, l'annuaire était très vieillissant. On n'avait plus de bénévoles pour s'en occuper. Et ça devenait compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vieilles notices logicielles dont les logiciels n'existent plus, dont on ne trouve plus le code source, etc. Et donc, il a fallu remettre à zéro cet annuaire. Et on l'a donc refait et réannoncé, si je ne dis pas de bêtises, en 2016. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne suis même pas allé sur Framalibre ces derniers jours, mais on doit tourner aux alentours de plusieurs centaines de fiches logicielles. On doit être à 600, 800, quelque chose comme ça.
D'accord. Alors, je précise qu'on va citer sans doute beaucoup de noms de sites web au cours de l'émission. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site portail, Framasoft. On va dire framasoft.org. Ouais. Et là, vous retrouverez tous les liens. Donc ça, c'était l'annuaire. Il y avait un autre projet qui était important, c'était les Framakis. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était que ces projets-là et est-ce que ça existe toujours ?
Alors, le projet Framaki est né en 2005. L'histoire est assez simple. Moi, j'avais traduit un projet qui s'appelait The Open CD, dont tu te souviens peut-être, qui était un CD, une compilation de logiciels libres sur CD et DVD. Et j'avais trouvé qu'il était assez facile de pouvoir mettre ces logiciels sur clé USB et de les faire tourner sur clé USB. Et donc, le projet Framaki est né avec un autre bénévole. On a porté ce projet pendant quelques années à ce moment-là, donc à partir de 2005-2006. Et l'idée, c'était de créer une clé USB sur laquelle on pouvait emporter et embarquer ces logiciels. Et ce qui permettait d'ailleurs souvent des utilisations un petit peu sauvages et positif de logiciels libres dans des environnements qui étaient verrouillés par les administrateurs systèmes et qui empêchaient l'exécution, par exemple, de Firefox. Ben là, on avait un Firefox portable sur la clé USB, on branchait la clé USB, on lance Firefox portable et ça fonctionne directement depuis la clé USB. Ce projet existe toujours, il est clairement moribond aujourd'hui, puisque il restait maintenu par des bénévoles de Framasoft, notamment un bénévole, Arnaud, que je salue, et qui n'ont juste plus le temps de s'en occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a eu d'autres associations, donc notamment les CMEA, une association, un gros réseau d'éducation populaire, qui potentiellement est intéressée par le projet Framaki et qui pourrait en voir d'autres usages que nous, on n'avait pas détecté au départ, pour d'autres publics que le très grand public qu'on visait à l'époque. Et donc pour des publics très ciblés, peuvent avoir besoin de ce projet-là et on aimerait bien nous transmettre ce type de projet pour ne plus tout simplement avoir à les porter. 2005, ça fait 14 ans. Peut-être temps pour nous de passer à autre chose.
Tout à fait. Alors, il faut préciser que ces Framaki permettaient de faire tourner des logiciels libres à la fois sur environnement Windows et des Framaki aussi sur environnement libre, comme tout par exemple une Debian. Et nous-mêmes, d'ailleurs, entre April et Framasoft, on avait travaillé ensemble sur une Framaki en l'occurrence, ou une Framaclé, en coopération avec le Crédit Coopératif dans le cadre du guide Libre Association, donc avec des logiciels qui étaient diffusés auprès d'associations avec un guide papier et des clés à la fois Windows et Debian, donc en ce qu'on appelle en double amorçage, double possibilité. Peut-être que aussi les besoins aujourd'hui ont changé, donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, que c'est intéressant que d'autres structures s'approprient ces sujets-là et les adaptent à leurs besoins de leur
tout
public.
À fait.
Alors, donc l'annuaire et les clés, c'était les deux principaux projets de Framasoft à cette époque-là.
Ouais, est-ce qu'il y en avait d'autres ? En 2005, c'était les deux principaux projets. En 2006, sont arrivés deux autres projets d'importance qui sont toujours bien présents aujourd'hui et très actifs aujourd'hui, à savoir le Framablog, donc créé par Alexis Kaufmann à l'époque, Framablog qui visait et qui vise encore aujourd'hui à faire des ponts entre le milieu du logiciel libre et les milieux des cultures libres, d'expliquer un petit peu finalement les choses qui peuvent se passer de par le monde autour du monde du libre et les expliquer en les retraduisant parfois de façon littérale, c'est-à-dire qu'on a un groupe de traduction qui s'appelle Framalang, qui est composé de 80 à 100 personnes qui traduisent très régulièrement des articles essentiellement de l'anglais vers le français, mais c'est aussi de l'espagnol vers le français. Et donc ça permet de diffuser plus facilement de l'information au grand public en disant bah voilà, là on a trouvé cet article intéressant, on vous le propose à débat. Ça nous sert aussi pour nous, Framasoft, d'organe de promotion, de diffusion, d'information sur ce que l'on fait, donc à la fois quelque chose d'un outil de communication interne. Et donc aujourd'hui, le Framablog, je crois qu'on a dépassé les 1600 articles publiés depuis 2006. Donc il y a un rythme de publication relativement important. Et l'autre projet qui est né dans ces années-là, c'est le projet Framabook, qui est donc une maison d'édition libre, micro maison d'édition, hein, mais maison d'édition quand même, puisque aujourd'hui, je crois qu'on atteint les 48 ouvrages. On devrait atteindre les 50 d'ici la fin de l'année. La particularité de Framabook, c'est que tout le monde nous disait « Non, mais votre truc, là, le logiciel libre, c'est bien gentil, mais en fait, on peut pas... ça marche parce que c'est du numérique et qu'on peut le copier et le coller, mais si on le fait avec des objets physiques, ça marche pas trop. » Et donc, on était dans l'époque où on faisait un petit peu la promotion de la Framaki et on s'est dit « Vous voyez bien qu'on peut faire de l'objet physique et libre à la fois. » Et l'aspect culture libre nous paraissait intéressant. Et Georges Silva, qui est donc un des fondateurs de Framasoft, avait à cette époque un ouvrage qui devait être publié sur Thunderbird dans une grande maison d'édition.
Rappelle-nous ce qu'est Thunderbird.
Thunderbird, c'est un client mail, c'est-à-dire un logiciel qui permet de lire vos mails, d'y répondre, etc. Et donc, il avait écrit, je crois que c'était Thunderbird 1.5, et il s'est retrouvé en fait avec ce manuscrit sur les bras. Du coup, avec Alexis Kaufmann, ils ont décidé de monter cette maison d'édition Framabook sur la base de ce premier ouvrage qui a été repris ensuite par d'autres. Et aujourd'hui, on atteint une cinquantaine d'ouvrages qui vont du roman, puisqu'on a pas mal d'auteurs dans l'association. Donc, on a des membres qui vraiment écrivent des livres.
J'ai même lu récemment un roman policier.
Tout à fait. On a des romans policiers.
C'est Frédéric
Urbain.
Frédéric Urbain, roman policier qui est un peu à la mode à l'ancienne, on va dire, avec des personnages très truculents, de l'argot, etc.
Tout à fait. Ça lui fera plaisir que tu.
Je lui ai dit en direct.
Voilà. Il y a aussi, toujours dans les romans, il y a Trace de Stéphane Croza, qu'on a publié il n'y a pas longtemps, je trouvais vraiment le bouquin excellent. Il y a toujours dans les romans, mais cette fois-ci, troisième quart du XIIe siècle, donc romans médiévaux, une republication des ouvrages de Yann Carvent, qui, du coup, avait publié ces livres-là, que vous pouviez trouver dans toutes les bonnes librairies et toutes les bonnes bibliothèques. Et quand. voilà, plusieurs années après, il a souhaité reprendre ses ouvrages et les republier. Il a choisi de les publier chez Framabook. Donc voilà, il y a Pouillou aussi, qui est aujourd'hui salarié de Framasoft, mais qui avait publié ses ouvrages. Et après, on a des bouquins qui tournent aussi autour du logiciel libre, évidemment. Voilà, sur, à la fois qui peuvent être des essais, qui peuvent être des livres très pratico-pratiques sur, je ne sais pas, Drupal ou autre. Et on a enfin des ouvrages encore un petit peu entre deux mondes. Par exemple, un ouvrage qui s'appelle Thermodynamique de l'ingénieur, voilà, qui sert aux étudiants qui font ingénieurs, qui étudient la thermodynamique, et qui est un bouquin qui marche plutôt bien. Voilà, donc on se retrouve avec plein de choses très différentes, des bandes dessinées aussi d'ailleurs.
Alors, je peux juste préciser que Drupal, c'est
un système de gestion de contenu.
Un système de gestion de contenu, donc notamment pour faire des sites web qui propulsent des sites très puissants et des sites un peu moins puissants, comme celui de l'April, par exemple. Il y a aussi que tu parlais de livres. Les personnes qui ont écouté l'émission il y a quelques semaines sur les licences libres dans le Framabook, il y a options libres, les licences libres expliquées, donc un livre de Benjamin Jean. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. Et le guide Libre Association dont je parlais à l'instant est également disponible en version Framabook. Alors ça, c'est des projets donc qui existent depuis très longtemps. Tu as très souvent employé le mot bénévole. Si je me souviens bien ce que tu as dit dans ton explication au départ, toi, tu es devenu le premier salarié en 2008. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes passé à un mode avec des bénévoles et des salariés ?
Alors, il y a l'histoire officielle et il y a l'histoire officieuse.
Alors, tu es en direct. Je te dis juste, tu racontes ce que tu veux.
Non, tout simplement, on devenait... le projet Framasoft marchait bien. On butait juste sur... Framasoft, j'ai pas précisé, mais c'est une association de 35 adhérents et adhérentes. Donc, on est volontairement une toute petite association. Il y a assez peu de bénévoles, finalement, dans l'association. Donc, entre 25 et 30. On est resté quasiment effectif constant en nombre d'adhérents et d'adhérentes. On n'a pas souhaité nécessairement aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'était de dire, on va essayer de faire le maximum avec une toute petite taille, ce qui nous permet d'être relativement agile et de changer de notre fusil d'épaule assez régulièrement, ce qui est plutôt efficace pour nous. Et donc, en 2008, il s'était passé deux choses. La première chose, c'est qu'on avait un petit peu de sous sur le compte parce que figure-toi qu'on avait de la publicité Google. AdSense sur le site framasoft.net à l'époque. Publicité Google qui rapportait un peu de sous, qui était du coup sur le compte en banque de Framasoft, qui ne servait pas nécessairement à grand-chose. Et on s'était dit, autant dépenser cet argent en essayant d'aller plus loin dans notre démarche de promotion et de sensibilisation au libre. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'étais salarié au CNRS à l'époque. Je travaillais sur un projet autour du logiciel libre, le projet Plume. Et à la fin de mon contrat, on m'avait proposé tout simplement de m'embaucher parce qu'ils avaient besoin de poursuivre ce projet. Ils ne pouvaient pas me renouveler mon contrat.
Le CNRS.
Le CNRS, voilà, ouais. Tout à fait. Le CNRS souhaitait me reconduire mon contrat, mais ils ne pouvaient pas le faire sous forme de CDD. Moi, je ne voulais pas rentrer dans la fonction publique. Enfin, j'avais passé déjà près de 10 ans à travailler pour des universités. Ça ne me tentait pas plus que ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils m'ont dit, tu peux te mettre en auto-entrepreneur ou on pourrait payer une structure pour que tu continues à travailler pour nous. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai proposé à l'association, effectivement, de travailler au sein de Framasoft sur le projet Plume, et ça a permis aussi de débloquer des fonds qui ont permis, finalement, la première création de postes à Framasoft. Donc, voilà, c'est à la fois grâce au CNRS et... J'ai pas honte de le dire, mais je trouve ça très rigolo avec le recul, en partie grâce à l'argent de la publicité gagnée via les publicités Google.
Alors, ça, c'était au début, et on va revenir après sur le mode de financement actuel de Framasoft. Mais depuis, vous êtes donc dégooglisé en termes d'organisation, et on reviendra tout à l'heure après sur le projet Dégooglisons Internet. Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, juste pour un chiffre, vous êtes combien de salariés à Framasoft ?
Alors, on est 9 salariés, on est 35 adhérents au total. Ce qui fait nous, en termes de salariés, une des plus grosses associations du libre, non seulement francophone, mais je pense européenne.
Tout à fait. Donc ça, c'est la naissance, donc là, on l'a vu assez rapidement, la naissance de Framasoft, avec la partie mathématique, le passage, les premiers projets, que certains existent toujours, et certains, évidemment, très importants, comme l'annuaire du libre à l'époque, qui était la référence sur laquelle on renvoyait les gens. On vient de voir juste le démarrage, donc la partie salariée, on reviendra tout à l'heure parce que Framasoft depuis a bien progressé, a de plus en plus de projets, donc une équipe de 9 personnes, et on verra un petit peu en détail à quoi servent ces 9 personnes. Mais il y a aussi un autre virage. Alors, tu as donné un premier virage tout à l'heure, c'est l'extension à la culture du libre. Ce qui a été un marqueur de Framasoft, c'est au-delà du logiciel libre, la culture du libre. Un deuxième virage, c'est celle de l'éducation populaire. Alors, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment était ce virage et pour quelle raison?
On a toujours fait de l'éducation populaire. Alors, définir l'éducation populaire ou l'éducation non formelle, c'est toujours un exercice un petit peu difficile. Si je devais résumer ça, pareil, en une phrase, je dirais que c'est l'éducation de tous, par tous, dans l'idée de s'émanciper et de pouvoir être autonome. Alors, être autonome, c'est très, très vaste, mais c'est aussi être autonome, du coup, pour nous, là, spécifiquement sur des questions numériques. Et donc, Framasoft a toujours été une association d'éducation populaire. Par contre, en 2013, on a fait cette démarche de demander un agrément jeunesse éducation populaire. On a surtout beaucoup rencontré d'autres structures autour de nous qui faisaient de l'éducation populaire sur le terrain. Il y avait à la fois une part de nécessité, une part d'envie et une part de mise en perspective. La nécessité, c'était qu'on se rendait bien compte que le logiciel libre, ça marchait bien dans nos petits milieux libristes. Voilà, c'est dans notre petite tour d'ivoire, ça marche plutôt bien. Par contre, quand il fallait aller rencontrer les gens, c'était un petit peu plus compliqué. Là-dessus, faut saluer le travail notamment qui a été fait par Ubuntu pour démocratiser un petit peu GNU Linux en tant que système d'exploitation qu'on va pouvoir utiliser sur son ordinateur. Mais on voyait bien qu'on butait de toute façon en termes d'usage sur quelques pourcents. Et on s'est dit, mais en fait, on doit pouvoir... j'allais dire utiliser, alors c'était dans le, ça peut être mal compris, mais c'était pour moi positif, s'appuyer sur des réseaux préexistants, que ça soit, tout à l'heure je parlais des CMEA, qui est un réseau d'éducation populaire qui a 80 ans, il me semble, ça peut être la Ligue de l'enseignement qui est encore plus ancienne, ça va être des associations de quartier type MJC, etc. C'est exactement ce que vous faites là en faisant cette émission aujourd'hui. Donc c'était quelque chose qui était déjà pratiqué, mais on a souhaité l'affirmer, le développer et rendre ces liens plus tangibles en travaillant finalement avec ces associations d'éducation populaire, ces réseaux d'éducation populaire qui sont présents sur le territoire, qui eux ont les contacts sur le terrain, qui ont l'habitude, qui connaissent leur population, c'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui sont assez éloignés du numérique. Et du coup, on s'est pris quelques claques dans la face et c'était très très bien de se prendre quelques claques, on va dire, d'un point de vue voilà, où nous on était très au point sur les questions techniques, et puis bah tu te retrouves dans une MJC à expliquer à quelqu'un comment fonctionne la souris, et ben tu te retrouves de la réalité. Et du coup on s'est dit, il faut qu'on réajuste non seulement nos pratiques mais aussi nos discours, et c'est ce qu'on a commencé à faire voilà depuis 2013-2014.
Donc avec un axe éducation populaire
qu'on a développé.
Et donc vous avez eu l'agrément aussi.
Tout à fait, oui, bien sûr. Depuis 2013, voilà, Framasoft est une association d'éducation populaire, on peut le dire, puisqu'on a l'agrément, ce qui n'empêcherait pas, à mon sens, de pouvoir le dire. C'est pas l'agrément qui définit si vous êtes une asso d'éduc-pop ou pas.
D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale, et puis après on va parler des projets un peu plus récents, que les gens connaissent sans doute mieux. On va écouter Leaf par KV, et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Leaf par KV, musique disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc l'œuvre peut être librement utilisée à la condition simplement de l'attribuer à l'auteur en citant son nom, ce que je fais. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de poursuivre, je vais vous reposer les deux questions du quiz. La semaine dernière, dans l'émission du 28 mai, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle ? Deuxième question, que se passe-t-il en fin de semaine, ce week-end, à Celle sur Cher et qui est en lien avec le logiciel libre ? Alors nous allons poursuivre, après ces deux petites questions dont je donnerai la réponse tout à l'heure, la discussion donc toujours avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft, directeur de Framasoft. L'invité suivant nous a rejoint, Étienne André, et ce qui était marrant, c'est que ça rappelait beaucoup de souvenirs à Étienne André, parce qu'on est à peu près de la même génération ici. Donc là, on a parlé un petit peu de l'ancien Framasoft, entre guillemets, en tout cas les premières années, les belles années, et puis les belles années se poursuivent avec des projets importants. Tout à l'heure, on parlait de Google, de la pub sur le premier site Framanet. Framasoft a lancé il y a quelques années un projet, une ambition incroyable, dégooglisons Internet. Alors c'était quand ? Quel était l'objectif et où on en est de ce projet un peu mégalo, non ?
Voilà, c'était notre modeste plan de libération du monde. Tout simplement, en fait, il s'est passé un événement important en 2013, c'est les révélations d'Edward Snowden, qu'on n'a pas forcément pris en pleine face parce qu'on savait déjà qu'il y avait des collusions importantes entre les services de renseignement états-uniens et un certain nombre d'entreprises du numérique américaines. Et c'est juste que, voilà, là, c'était flagrant, c'était sur la place publique, c'était débattu, ça a quand même été le feuilleton de cet été 2013. Et nous, on s'est regardé dans l'association et on s'est dit, bon, alors attends, là, nos mails étaient gérés chez Gmail, les mails de l'association étaient gérés chez Gmail, on utilisait Google Groups pour discuter entre nous, on avait de la pub AdSense qu'on avait dû virer, je pense, en 2012 ou effectivement début 2013, donc voilà, on était en gros dépendants, on était devenus dépendants de Google.
Et beaucoup de personnes vous le faisaient remarquer en plus.
Tout à fait, mais après, par rapport au public que nous on visait, c'était pas ces personnes-là qui nous le faisaient remarquer, non. C'était évidemment les amis de l'intérieur, ils disaient c'est mal. Mais bon, voilà, on est une association donc, qui vient du milieu de l'enseignement. Comme je disais, moi j'ai travaillé pendant très longtemps pour des universités. Les trois fondateurs de Framasoft sont des enseignants. À un moment donné, on n'était pas des informaticiens et des informaticiennes. Donc on avait cette problématique de se dire si on veut être autonome sur ces outils-là, ça va nous prendre pas mal de temps. Et on avait repoussé, jusqu'à cet été 2013. On avait à ce moment-là la chance d'avoir quelqu'un dans l'association, Luc Didry, qui est toujours, qui est maintenant notre administrateur système salarié, mais qui à l'époque était bénévole.
Donc
dans
la personne qui est en charge de la maintenance
tout à
de
fait.
Votre système d'information, donc
tout
de
à
vos
fait.
Services.
Exactement. Et qui a dit, ben ok, moi c'est mon boulot, en tant que bénévole, je peux vous aider à nous dégoogliser en tant qu'association. Et il y a passé, pas loin d'un an, on va dire 6 mois à temps très important, puis les 6 mois sur les petits services et les petits liens qui restaient, etc. Donc on s'est dit, oh là, on a un problème. Si nous, qui sommes une association qui connaît quand même bien le numérique, qui comprend relativement bien ses enjeux, on n'est pas fichu de sortir de Google en moins de 6 mois, comment vont faire les autres ? Et on a donc décidé à ce moment-là de lancer cette campagne qui s'appellera en octobre 2014 « Dégooglisons Internet » et qui visait trois objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser le public à la domination et aux différentes dominations de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et donc, on aurait pu appeler ça dégafamiser, mais le terme GAFA ou GAFAM n'était pas très connu à l'époque. Donc, il s'agissait quand même d'avoir un terme que les gens comprennent. On a choisi pour cette sensibilisation d'utiliser l'imagerie d'Astérix, que tout le monde sur la planète comprend bien, le petit village gaulois entouré par les Romains, en disant, bah voilà, chaque camp romain sera un service de Google ou de Facebook ou autre, un service qui centralise vos données, et on va essayer, nous, d'aller combattre, petit gaulois, ces camps romains. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était la sensibilisation. On a fait, j'avais fait le décompte à un moment donné, sur 3 ans, plus de 300 confs sur le sujet des dominations techniques, économiques et politiques et culturelles de Google et compagnie. Mais ça suffit pas de sensibiliser, puisqu'il y avait rien, en fait. Si on disait aux gens,
qu'il y a un problème, voilà, et t'offres pas la solution à côté.
Voilà, exactement. On disait pas Google, c'est le mal. On disait, voilà, il y a effectivement un problème avec Google. Il y a le problème de la surveillance, mais il y a aussi le problème de la domination technique et de Google qui est capable de dire, quels doivent être les formats, quels doivent être les protocoles, etc. Il y a le problème de la domination économique très forte de ces entreprises, puisqu'elles sont riches à plusieurs centaines de milliards. Hein. Et du coup, on se retrouvait à dire aux gens quelque chose, et nous on pouvait dire, ah mais nous ça y est, nous on est sortis de Google. Mais les gens nous regardaient et nous disaient, ok, mais moi je fais quoi? Je fais quoi avec mon mail? Je fais quoi avec mon moteur de recherche? Je fais quoi avec mes Google Docs, etc. Et donc le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de démontrer que le logiciel libre était une réponse qui était présente, immédiate, efficace, face à cette problématique. Et donc, on a décidé de mettre en place, on s'était lancé sur l'idée de 30 services, on en est à 34 ou 35 aujourd'hui, je n'ai même plus le décompte,
Dès le départ, vous aviez déjà l'objectif d'avoir une trentaine de services, donc pour couvrir l'ensemble quasiment des besoins.
Exactement, c'était ça qu'on visait. Voilà, on s'est dit, en 3 ans, on va sortir 10 services par an, et ces 10 services, voilà, on arrivera en octobre 2017, on aura sorti 30 services alternatifs à ceux de Google.
Et dans votre petit village, vous étiez combien à ce moment-là, en 2013?
Toujours pareil, on était en gros 35 bénévoles.
Et
on était en salarié en 2014, on était 3.
D'accord.
Entre 2 et 3. Donc voilà, assez rapidement, on a décidé effectivement déjà d'embaucher un admin 6, hein, parce que c'était moi qui faisais l'administration système des machines, etc., donc la partie plus technique. Et moi, c'est pas du tout mon cursus, moi je suis économiste en formation, donc ça n'avait rien à voir. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir un petit peu animer et coordonner cette campagne pendant les 3 années qui ont suivi, et donc de démontrer vraiment que ça fonctionnait. Le troisième et dernier objectif de dégooglisons Internet, et ça vous en avez déjà parlé dans une précédente émission, c'était l'essaimage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans notre volonté l'idée que Framasoft pouvait concurrencer Google. Donc ça nous aurait fait doucement sourire. Hein. Le budget de Framasoft, j'avais fait le calcul, c'est 1,32 secondes du chiffre d'affaires de Google. Donc forcément, ça, absolument incomparable. Mais il y avait dans l'idée plutôt d'impulser finalement un réseau qui allait devenir Chaton, dont vous avez parlé il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, je crois, avec ma collègue Angie.
On en a parlé il y a quelques semaines et on va en reparler le 25 juin 2019.
Parfait. Et donc voilà, donc pendant ces trois années-là, octobre 2014 à octobre 2017, on a sorti des services, j'allais dire à la machette, hein, quasiment un par mois pendant 3 ans. Donc voilà, certains étaient plus lourds que d'autres à mettre en œuvre, etc. Et on a fait énormément de conférences, etc. Et voilà, fin 2017, on était un peu épuisés de tout ça, et à la fois portés, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais Framasoft est une association qui ne vit que des dons.
Alors justement, c'était ma question, c'est que le modèle économique des géants du web, on le connaît, hein, malheureusement. Peut-être que tous les gens n'en ont pas forcément conscience, mais en tout cas, on le connaît, et de mieux en mieux. Par contre, on pourrait dire, effectivement, comment financièrement vous en sortez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un modèle qui est basé sur le paiement de l'usager service, ou est-ce que c'est un autre modèle?
Non, on n'a pas de clients. Donc on a uniquement des donateurs et des donatrices, des soutiens qui pensent que ce qu'on fait est bien. Et donc, nous, on est extrêmement clair sur le modèle économique. On dit, voilà, si ça vous a plu, si vous utilisez le service et qu'il vous convient, pensez à faire un don parce que c'est maintenu par une petite asso. Et puis, voilà, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don. Si vous n'en avez pas les moyens, ne faites pas de don, mais parlez-en autour de vous, etc. Il y a plein de façons de soutenir le logiciel libre autre qu'en faisant des dons. Le gros avantage, c'est que c'était pas du tout un calcul de notre part, mais on s'est retrouvé finalement à toucher énormément de monde. Une petite partie de ces énormément de monde qui nous font des dons, et ça nous permet aujourd'hui de payer les 9 salariés et les frais de fonctionnement de l'association.
Donc le financement aujourd'hui de Framasoft, c'est du 100%.
C'est du 94%.
Oui, quasiment voilà, exclusivement.
Oui, tout à fait. On vend des t-shirts.
Comme tout le monde, on vend des t-shirts, des autocollants. Enfin, les autocollants, généralement, on les donne, des mugs, etc.
Voilà,
et l'essentiel, c'est les dons.
C'est les dons. Et ça, on n'a pas l'intention pour l'instant de bouger de ce modèle de financement qui nous convient assez bien en tant qu'association d'éducation populaire. Voilà, c'est quelque chose qui nous va bien.
Et dans cette période-là, est-ce que tu peux nous citer les 2-3 services peut-être les plus utilisés ou les plus connus, les plus emblématiques?
Les plus utilisés, les plus connus sont Framadat, qui est une alternative à Doodle, qui n'est pas un service de Google, hein, qui reste une boîte privée suisse qui appartient à un assez gros groupe et qui vit aussi de la vente et de la collecte de données et de la personnalisation de son produit. Et donc, voilà, on a développé une alternative à Doodle sur la base d'un logiciel libre préexistant qui était développé à l'Université de Strasbourg et qui s'appelait Studs. Et voilà, aujourd'hui, des Framadat, il y en a plusieurs milliers qui sont créés chaque jour. C'est plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, visiteuses chaque jour. Donc voilà, c'est un service qui marche très bien. Et le deuxième service peut-être le plus connu, c'est Framapad, basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad.
Sorte de bloc-notes.
Tout à fait, un bloc-notes collaboratif.
Collaboratif.
Le gros avantage de Framapad, c'est qu'il est collaboratif. Ça veut dire que pendant que vous tapez un texte, une autre personne qui vient sur votre bloc-notes et qui, elle, peut compléter ce texte, peut corriger en temps réel, etc. Et donc là, aujourd'hui, on héberge plus de 200 000 pads, me semble-t-il. Et on a d'ailleurs développé, on a participé assez largement au développement de Etherpad, le logiciel originel, et on a développé nos propres plugins qui sont évidemment sous licence libre et disponibles en ligne et que n'importe qui peut télécharger et installer.
Et réutiliser. Alors justement, tu parles de cette partie de réutilisation. Donc ce projet 2013-2017...
2014-2017.
Ouais. En 2017, vous décidez de ne pas poursuivre cette extension, mais plutôt, comme tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, d'essaimer. Ouais. Et donc, c'est ces fameux chatons. Donc, est-ce que même si on a déjà consacré une émission et qu'on va en reparler quand même le 25 juin, est-ce que tu peux quand même expliquer rapidement ce qu'est les chatons et ce que signifie chaton? On va savoir si tu sais ce que ça veut dire.
C'est quand même moi qui ai trouvé l'acronyme, donc je peux le redire. Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et chaque terme est important. Donc, c'est un collectif, c'est pas une association. Ça regroupe des hébergeurs de services en ligne type Etherpad, type Framadat, type... autre, hein, voilà, vous pouvez proposer à peu près n'importe quel type de service libre si vous faites partie du collectif Chaton. Transparent parce que on a choisi d'avoir une gouvernance qui est relativement ouverte, que chacun peut voir, etc., et qui reste bien visible. Ouvert, évidemment, tout est basé sur du logiciel libre. Si vous êtes Chaton, vous devez être à 100% logiciel libre. Modulo quelques petits points, genre voilà, si vous utilisez il y a un pilote CSI sur un disque dur, etc., voilà, qui n'est pas libre, bon, ça peut
périphérique réseau, voilà, ou disque dur.
Et évidemment, voilà, il y a quelques petites choses qui peuvent être non libres, mais on essaye d'encadrer ça au plus strict. Neutre parce que on promeut aussi dans Chaton non seulement l'aspect neutralité du net, mais le fait que chaque chaton peut avoir ses propres modèles économiques qui nous différencient en ça du modèle dont on s'est inspiré, qui est celui de la FFDN.
C'est quoi la FFDN ?
La FFDN, c'est la Fédération FDN, c'est-à-dire une association qui regroupe des fournisseurs d'accès à Internet associatifs et alternatifs. Et j'en étais au N, et donc le S de solidaire, c'est parce que ça nous paraissait une composante très importante. On souhaitait pas juste créer un collectif dans lequel n'importe qui pouvait postuler et avoir des modèles économiques qu'on aurait trouvé non solidaires. Et donc on essaye de promouvoir aussi un autre Internet, non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects de pratique et d'usage autour de la solidarité.
D'accord. Alors j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter le podcast de l'émission donc du 26 avril 2019, qui est une première émission donc sur les chatons avec une explication sur les services rendus, le fonctionnement. Et comme je disais tout à l'heure, donc le 25 juin, nous ferons une seconde émission plus orientée pour les structures qui souhaiteraient mettre en place un chaton. Comment ça se passe? Comment fonctionne le collectif? Comment se choisissent les logiciels? Voilà, les critères un peu plus techniques. Donc le 25 juin. Alors ça, c'est l'essaimage. Et puis, parce que Framasoft, vous vous reposez pas quand même sur vos lauriers, vous lancez il y a quelque temps un nouveau projet. Alors, il faut s'entraîner à le dire, ce projet, hein, parce que c'est...
C'est comme des goudisons, hein, faut apprendre. Hein.
Il faut apprendre à le dire. Donc, Contributopia, qui est lancé donc il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que Contributopia? Topia.
Eh bien, c'est la suite et la poursuite, pour nous, logique, pas forcément logique pour tout le monde, mais pour nous, logique, de ce qu'était Dégooglisons Internet. On aurait pu faire un Dégooglisons Internet 2 et repartir pour 3 ans et ressortir X services chaque année. Et c'est pas du tout ce qu'on a souhaité faire. D'abord parce qu'on était fatigués. Faut imaginer donc que pendant 3 ans, on a sorti donc quasiment un service par mois. On a embauché, donc il fallait gérer la croissance aussi de l'association. On est passé donc de 2-3 salariés à 9 aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut.
Alors, oui. Juste une petite question. Donc il y a un choix de ne pas poursuivre les embauches.
Volontairement. Pardon, pas volontiers. Mais volontiers, je veux bien qu'on arrête d'embaucher à Framasoft. Moi, ça m'arrange en tant que directeur aussi. Mais du coup, on s'est dit, on avait deux voies. C'est soit on se disait ça marche et on devient une espèce de champion du service libre, etc., qui est une étiquette qu'on nous a assez vite collée, Framasoft, le Google du libre, etc. Bon, on l'a un peu pas toujours bien pris d'ailleurs, mais c'était pas du tout notre objectif. Notre objectif, nous, on se considère comme une bande de potes qui font des trucs aussi pour se marrer, et à un moment donné, on voyait bien que la pression et les exigences du public envers nous devenait très très forte. Et donc on s'est dit, on ne veut pas céder à cette pression et à ces exigences, et on a décidé volontairement de limiter le nombre de salariés à 10. On a décidé de rester une petite association en mode bande de copains, et Contributopia était un virage à la fois en termes de communication, puisqu'on est passé de l'imagerie un peu Astérix, assez agressive, le Gaulois réfractaire parfois, face au camp romain qui veut nous dominer, etc. Donc, on va dire une histoire ou un imaginaire de David contre Goliath, mais qui finalement, nous, être des super-héros, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, on s'est dit, on veut essayer de communiquer autre chose. On a demandé, du coup, on a pas mal réfléchi en interne dans l'association. On a demandé à David Révois, qui est un dessinateur fort connu dans le milieu du logiciel libre, qui publie des bandes dessinées sous licence libre, notamment une BD qui s'appelle Pepper and Carrot, qui est un type adorable, et de nous réaliser un petit peu des visuels qui porteraient une autre image d'un numérique qui serait souhaitable. Et on a développé un petit peu cet imaginaire positif du numérique au travers de cette campagne Contributopia, on n'a pas repris du coup du tout les codes de la Startup Nation, etc. On a complètement cassé les codes avec ça. On a fait quelque chose d'assez mignon, d'assez graphique, un peu en mode manga, BD, parce que on voulait donner une autre image de ce que voulait être Framasoft au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant cette période-là, dans l'association, un certain nombre de prises de conscience que le logiciel libre était certes quelque chose qu'on souhaitait défendre, mais qui était plus un moyen qu'une fin, et que finalement, la fin, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vivre dans une société plutôt apaisée. Ce qu'on souhaitait, c'était passer de la société de consommation à la société de contribution, telle que l'a définie en partie Bernard Stiegler, qui est un philosophe. Et du coup, on souhaitait porter une autre façon de parler des enjeux autour du numérique et qui ne soit pas tourné uniquement sur les meilleurs services, la concurrence, la bataille, la lutte, mais plutôt sur le faire ensemble, sur l'entraide, sur le partage des savoirs et des connaissances. Et donc, quand on a proposé Contributopia, il y avait cette idée de changer un petit peu de paradigme et de dire qu'en changeant le numérique, on pouvait changer la société. Et inversement, si on voulait changer la société, il fallait aussi changer le numérique. Et on a décidé d'orienter on va dire notre lutte ou notre façon d'agir sur l'idée que la contribution était quelque chose d'absolument central. Si je reprends le cas de Framadat, par exemple, les gens imaginent que c'est toujours Framasoft qui maintient Framadat, sauf que dans les faits, on n'a personne pour réellement maintenir Framadat. Alors, on a de temps en temps un salarié de Framasoft qui peut y passer un petit peu de temps, à droite, à gauche, etc. Mais on est juste complètement débordé par l'ensemble de ces activités, vu qu'on a toujours la maison d'édition, on a toujours la Framaki, et on a 34 services, et on en propose de nouveaux assez régulièrement. Et donc, il fallait parler d'autre chose, le faire autrement. Et donc, pour nous, Contributopia, c'est donc un mot valise entre non seulement l'idée de contribution au logiciel libre, de société de contribution, et d'utopie. Et je rappelle que utopie, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et on a trouvé qu'Internet était une utopie parfaite.
Donc c'est à la fois créer et proposer des outils, transmettre des savoir-faire et encourager à la contribution,
ouais.
Finalement pour améliorer le monde.
Exactement, c'est changer le monde un octet à la fois, tranquillement, doucement, et surtout pour nous, relâcher un peu de pression et dire non mais en fait, l'important c'est pas du tout Framasoft, l'important c'est les gens qui décident de taper ensemble dans la même but pour aller dans la même direction, et ça c'est valable, et c'est aussi ce que porte Contributopia comme discours, c'est de dire que c'est pas telle ou telle association, c'est pas tel ou tel sujet de militance qui doit nécessairement l'emporter, c'est plutôt par une complémentarité et par une mise en réseau de différents groupes qu'on va réussir à avancer, à changer le monde. Donc aujourd'hui, voilà, Framasoft se retrouve dans des projets aux côtés d'assauts comme, je ne sais pas, Tous Migrants ou la CIMAD.
Un exemple de projet, justement. Alors.
Bon, je vais prendre un projet technique, un projet non technique. Allez, le projet technique, Bénévalibre, ça va te parler. Bénévalibre, qui est un logiciel qu'on coproduit à de nombreuses structures, à la fois des réseaux d'éducation populaire comme le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté, avec l'April, avec Framasoft, avec la Ligue de l'Enseignement et d'autres. Et l'idée, c'est de faire un logiciel pour gérer et comptabiliser le temps de bénévolat des associations. Donc là, on est sur un projet de développement logiciel. Ça va être réalisé par une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle CLIS21. Et voilà, et ce projet-là, pour nous, est important, est un facteur de changement dans la société. Et voilà, et c'est un projet technique qui, pour nous, est plus intéressant qu'un logiciel qui permet juste de, je sais pas, partager des images, par exemple. Pour nous, ça a plus de sens. Un projet non technique, ça va être, par exemple, on travaille avec d'autres associations sur une coalition qui travaille à identifier et mieux faire connaître, finalement, les types de répression sur les libertés associatives, c'est-à-dire voilà les répressions qui peuvent être policières, judiciaires. Quand on est une association aujourd'hui en France et même plus largement en Europe, on peut voir son activité associative qui est menacée ou réprimée par d'autres intérêts, qui peuvent être des États, qui peuvent être d'autres structures, qui peuvent être des baisses de subventions, etc. Et donc on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'on s'est éloigné sur ce type de choses, de ces questions purement techniques du numérique, et pourtant on garde toujours ce discours assez fort, même si notre ennemi n'est pas, on ne l'identifie pas comme étant Google. On va beaucoup parler aujourd'hui du capitalisme de surveillance ou de sujets de ce type-là, donc, qui mériteraient une émission à part entière.
Alors, ce sont des bien belles explications, comme le dit Marie-Odile sur le salon web, et je relayerai après une petite question qui va te faire sourire et qui va faire sourire ton voisin aussi. Mais juste avant, ça n'empêche pas le développement de nouveaux outils. Est-ce que Peertube rentre dans cette catégorie-là, ou est-ce que Peertube, c'est encore, on va dire, ouais, des googlisons
Non, pour moi, Peertube sort
de... Que déjà,
voilà, Peertube est une plateforme libre et fédérée et décentralisée qui permet de diffuser et de mettre en ligne des vidéos. En gros, plutôt quand dans des googlisons internet, on avait pensé à créer une alternative à YouTube, on s'est dit bah oui, mais du coup si les gens ont fait Framatube et que tout le monde vient déposer ses vidéos, ça va nous coûter hyper cher, et puis surtout on va recentraliser des vidéos, ça sert strictement à rien. Il faut qu'on puisse sortir de ce système-là. Je pourrais raconter l'histoire de Peertube, mais très rapidement en fait, on a rencontré, c'est aussi une question d'opportunité, on a rencontré le développeur d'un logiciel qui s'appelait Peertube, qui faisait ça sur son temps perso et 100% bénévole. Et on lui a proposé tout simplement de travailler au sein de Framasoft, d'être salarié au sein de Framasoft pour accélérer le développement de Peertube. Et donc la particularité de Peertube, et pourquoi pour moi Peertube rejoint l'idée de Contributopia, c'est qu'on est sur du logiciel qui est fédéré. Et c'est un concept qui est hyper important pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire la fédération. Le mail, par exemple, est un outil fédéré. Moi, j'ai une adresse @framasoft.org. Toi, Frédéric, tu as une adresse @april.org. Si je t'écris, tu reçois mon mail, tu peux répondre avec ton mail et m'envoyer un mail depuis april.org@framasoft.org. Et l'idée de réseau fédéré, par exemple comme Mastodon, ça fait que si tu as un compte sur Framapiaf, tu peux écrire à quelqu'un qui a un compte sur une autre instance du logiciel Mastodon, qui a un réseau de micro-blog, ouais. Voilà, un peu alternatif à Twitter.
Pour échanger des messages courts.
Et du coup, ce système-là, pour nous paraissait hyper intéressant parce que ça nécessitait de réinventer finalement comment est-ce qu'on allait utiliser Internet, non plus en allant déposer ses données chez Framasoft ou chez Google ou chez Facebook ou à l'April, mais plutôt comment on allait pouvoir se réapproprier notre petit bout d'Internet. Et c'est ça, en ça, pour moi, que Peertube relève plus de Contributopia que de dégooglisons Internet.
D'accord. Alors, pour pas que tu loupes ton train, parce que sinon je m'en voudrais, on va bientôt terminer, je vais quand même relayer la question de Marie-Odile, qui te demande, en fait, est-ce que Pig n'ira toujours pas boire le thé à l'éducation nationale ? Alors, rapidement, est-ce que tu peux rappeler le contexte et répondre ?
Tout simplement, pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, Framasoft vient du milieu de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire. On a longuement discuté avec des personnes au ministère de l'éducation nationale pendant des années. Je suis allé moi-même un certain nombre de fois, y compris avec toi, au ministère, et il n'en est pas ressorti grand-chose. Et on a donc sorti, je crois que c'était en octobre 2016, un billet qui s'appelait « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ?» Et pour nous, ça exprime assez bien ce que veut faire Framasoft aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est une toute petite association, on a un nombre de points d'énergie, si je prends la métaphore du jeu vidéo, un nombre de points d'énergie qui est relativement limité, donc moi je me dis, voilà, chaque matin, j'ai 100 points d'énergie, où est-ce que je les mets ? En tant qu'association, on va dire, on va avoir 10 000 points d'énergie, où est-ce qu'on les met ? Et bien, clairement, quand on les met au niveau de l'éducation nationale, le retour, il est de 3. Voilà. Si, un petit peu des fois. On a un tout petit peu de retour, mais pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'était de dire où est-ce qu'on peut mettre notre énergie pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit vecteur de transformation. Et donc, aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale, il se passe des choses intéressantes. Par contre, je n'ai toujours pas de vrais signes positifs et concrets qui me diraient si Framasoft, demain, mettait, allez, on va dire, 1000 points d'énergie au niveau de l'Éducation nationale, en termes d'investissement de temps et d'énergie, eh ben, je suis pas sûr qu'on aurait plus que 3 en retour. Donc, tant qu'on n'a pas ce retour-là, tant que, pour moi, il n'y a pas des positions claires, limpides et vraiment avec des projections un petit peu à long terme et des engagements fermes du ministère de l'Éducation nationale, ben, tout simplement, le ministère continuera à travailler sur ses propres projets. Ils avanceront à leur rythme et nous, on ira mettre notre énergie auprès notamment des publics, associations, éducation populaire, milieu de l'économie sociale et solidaire.
Très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion ou un appel ?
Oui,
ou une actu ?
Tout à fait. Il se trouve que toujours dans la logique de Contributopia, on vient de lancer un appel à la collecte pour un logiciel qui s'appelle Mobilizons. Alors Mobilizons est né d'une problématique assez simple, c'est que les marches pour le climat, qui moi m'intéresse parce que je m'intéresse à ces questions-là, s'organisaient essentiellement sur Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook, enfin je n'utilise plus mon compte Facebook depuis des années. Et donc je pouvais participer à la marche pour le climat, mais je ne pouvais pas participer à l'organisation, puisque tous les groupes d'organisation se situaient sur Facebook. Et on s'est rapidement dit, là aussi ça venait de dégooglisons Internet, on voulait une alternative à Meetup. Meetup est une plateforme qui permet de s'organiser des événements à plusieurs, mais qui est une plateforme complètement fermée, hein, d'ailleurs. Et on s'est dit, mais en fait, le problème, c'est pas juste la gestion des événements, c'est plutôt la gestion des mobilisations. Et donc, on a voulu créer Mobilizons, qu'on espère être à la fois non seulement une alternative aux événements Facebook, peut-être assez rapidement au groupe Facebook, mais qui permettent à la fois d'organiser l'anniversaire surprise de ta cousine jusqu'à, pourquoi pas, une action de désobéissance civile par Extinction Rebellion. Et donc, on doit pouvoir couvrir tout ce panel-là d'actions. Et la particularité, c'est donc que Mobilizon, tout comme Peertube, sera lui aussi un logiciel non seulement libre, décentralisé, donc vous allez pouvoir, chacun va pouvoir l'installer, mais aussi fédéré, c'est-à-dire que les différentes installations de Mobilizon vont pouvoir s'interconnecter les unes avec les autres, de façon à ne pas avoir tout dans le même silo. Donc on a lancé une campagne qui vise à atteindre les 50 000 euros, qui est pour l'instant la somme qu'on a estimée nécessaire pour amorcer le projet et donc en sortir une version bêta en gros au deuxième semestre 2019, c'est-à-dire quand même très bientôt, donc en ce moment on code déjà dessus, et une version 1 au premier semestre 2020. Et on a franchi la barre des 35 000 la semaine dernière. On cherche surtout, si vous connaissez des structures anglo-saxonnes ou en tout cas non francophones, elles peuvent très bien être hispanophones ou germanophones, qui peuvent être intéressées par Mobilizon, n'hésitez pas à leur passer l'info parce qu'en fait, on a cette difficulté de montrer ce modèle économique du logiciel libre en disant, voilà, finalement, c'est un logiciel qui ne rapportera pas d'argent. On a besoin de financement au départ pour amorcer le logiciel. Par contre, si on s'y met tous, plein de gens mettent un euro, on pourra avoir la somme pour payer un développeur pour le développer à plus long terme.
Eh bien, écoute, merci Pierre-Yves. Et évidemment, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur framasoft.org. Un, pour trouver toutes les informations et pour participer à Mobilizon. On va te libérer pour que tu attrapes ton train. Donc, je te remercie. Donc, c'était Pierre-Yves Gosset, directeur de Framasoft. Belle journée, puis bon retour sur Lyon.
Merci. Bonne fin d'émission.
Merci. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Passe-moi le balai par Demi-Sel. Et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Écoutez, Passe-moi le balai par Demi-Sel. C'est une musique évidemment sous licence libre, Creative Commons, attribution, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais répondre à la première question du quiz de tout à l'heure qui était « La semaine dernière, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle ?» La réponse, c'est Primtux, donc primtux.fr. Nous allons changer de sujet. Alors, nous allons poursuivre avec un échange sur Open Academy avec Étienne André, donc qui est fonctionnaire intrapreneur dans une start-up d'État. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors bien sûr, première question, c'est quoi un fonctionnaire intrapreneur dans une start-up d'État ?
Eh bien, c'est un fonctionnaire très motivé, Donc, voilà, alors, je suis pas n'importe quel fonctionnaire, mais intendant, en fait, dans un établissement scolaire, dans un lycée. Donc, chargé des toits qui fuient, des frites trop grasses, des couloirs sales. Et donc, on travaille beaucoup sur ordinateur, on doit travailler avec pas mal de données. Et j'avais un collègue qui savait bricoler des petits trucs en base de données. Moi, je faisais un petit site web pour échanger des choses avec mes collègues, intendanceuzone.net, dans lequel je parle beaucoup de logiciels libres. Et donc, ben, on s'est rencontrés, et puis j'ai commencé à diffuser les logiciels de ce collègue qui pouvaient être utiles à certains. Mais ils étaient dans un drôle d'état. C'était pas terrible. Et j'ai commencé à lui faire des suggestions d'amélioration. Et tout doucement, ben, on a commencé à passer de plus en plus de temps là-dessus. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, ce qu'on fait, faudrait quand même que ça soit ouvert, libre, que tout le monde. Enfin, moi, je le mets sur Internet, là, sur mon site, mais faut que les gens, ils n'hésitent pas. Après, et puis s'ils pouvaient le développer de manière collaborative et participer, qu'on fasse une communauté d'utilisateurs et de développeurs, ça serait vachement mieux. Et ça a grimpé petit à petit. Là-dessus, il y a eu un concours organisé par l'Éducation nationale qui s'appelait Impulsion, ça existe toujours d'ailleurs, je crois, en 2013, et on a présenté la démarche avec une démonstration, comme démonstration, un logiciel qui était plus avancé que les autres à ce moment-là, Gemasco, gestion des manuels scolaires. Donc vous
D'accord.
avez des dizaines de mi des milliers de manuels dans un collège qu'on distribue aux élèves le jour de la rentrée, qu'on récupère à la fin de l'année. Il faut vérifier qu'ils ont tous rentré. Vous avez toute une gestion là-dessus. On fait des petits codes-barres qu'on colle sur le manuel. Un coup à la douchette, code-barre. Hop, on sait que Kevin a rendu son manuel. Toutes ces choses-là. Donc c'est assez simple comme gestion de stock, hein. Au début, on est parti sur ce concept qui était facile. En tout cas, on a été remarqué en 2013. Et on a eu envie d'aller de plus en plus loin, de créer de nouveaux logiciels. Et dans cette époque de grand enthousiasme, un jour, on lit un article d'un secrétaire d'État à la modernisation de l'action publique, Thierry Mandon, on ne connaissait pas.
C'était le gouvernement, enfin c'était quoi, 2015, 2016?
Ça passe fin 2014.
D'accord.
Et donc, je trouve cette interview dans la Gazette des communes, je dis, tiens, ça va intéresser Pierre. L'autre collègue qui développait, moi je communiquais, mais je développais pas. Et donc il s'est mis à sauter partout comme un dingue. Il faut le rencontrer. Mais qui ça, le ministre? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je ne comprenais pas. Et en fin de compte, je sais pas s'il a jamais rencontré le ministre, mais en tout cas, on s'est mis en contact avec le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, à l'intérieur duquel, autour duquel, je ne connais pas forcément toutes les articulations, se trouve la DINSIC, donc la DSI de l'État.
Oui.
Chargé de, ben, entre autres, de l'amélioration numérique des services de l'État. Et là, il y a des gens qui nous ont dit, mais ce que vous faites, c'est bien. En fait, vous êtes des intrapreneurs. Donc, je réponds à la question.
Ah, mais je ne doute pas que tu répondes à la question.
Voilà, j'ai pris le temps. Mais donc, vous êtes des intrapreneurs. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une start-up d'État. On va vous aider. On va chercher un nom. On est tombé sur Open Academy. Voilà, c'est assez, assez bateau, assez clair. Et
Ah, excuse-moi, pourquoi ils ont employé ce terme alors de start-up d'État? Est-ce que c'est parce qu'on est dans la start-up nation? Qu'est-ce que se cache derrière ce terme start-up en
alors,
fait?
le principe de la start-up, c'est que avec de petits moyens, on teste quelque chose, une idée, et si ça marche, ben on peut passer à l'échelle et gagner des milliards avec une petite mise de départ. Et appliqué à la fonction publique, ça veut dire avec des fonctionnaires qu'on aide un petit peu à faire un petit peu mieux que la tambouille qui faisait tout seul dans leur coin, eh bien, on va leur permettre de développer des pratiques, des outils qui vont réellement transformer tout l'environnement, donc soit pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, et surtout beaucoup quand même pour améliorer le service rendu à l'usager. Ceci avec très très peu de moyens. Et dans la logique de start-up, des fois ça rate. Mais c'est pas grave, on n'y a pas mis beaucoup d'argent. On a juste permis à un fonctionnaire de, à temps partiel, s'occuper un peu d'autre chose que de ses missions habituelles.
Voilà. D'accord. Donc quelque part, si on compare par rapport, enfin, mais c'est, d'ailleurs, c'est du développement que vous faites. C'est un développement dans un cadre léger, agile et avant tout focalisé sur les usages des personnes qui vont utiliser le logiciel avec des retours très rapides. Donc c'est quelque part de l'agilité. Bon, le terme start-up d'État peut-être peut faire peur, mais en fait, on comprend un peu mieux l'objectif qui est, comme tu le dis, d'essayer de produire un outil qui va correspondre à des besoins, de l'adapter. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et donc dans ton cas, le projet, enfin. Cette start-up d'État, entre guillemets, s'appelle donc Open Academy.
Voilà.
Et donc, c'est développer uniquement le logiciel libre, c'est un des critères ?
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, je ne crois pas qu'il y ait une éthique libre à la DINZIC en disant il faut absolument que si un logiciel, il soit libre.
Je te pose la question parce que je crois que c'est l'un des critères, mais il faudra vérifier. On aura bientôt la DINZIC avec nous, on vérifiera, mais je crois que c'est l'un des critères, en tout cas, la partie en logiciel libre.
Je pense que c'est une bonne pratique pour eux.
D'accord.
Mais ce n'est pas forcément un objectif absolu.
Alors, tout à l'heure, tu parlais des premiers logiciels qui ont été développés. Tu as parlé de base de données. Initialement, c'était développé avec un outil privateur.
Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours, Microsoft Access.
Voilà.
Mais quel avantage tu as eu à utiliser cet outil ?
Alors, c'est très bizarre. Et moi, ça m'a freiné pendant très longtemps parce que je refusais de participer au développement d'un truc sous Microsoft Access. Et je disais, non, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse faire la même chose avec LibreOffice Base. Ben, j'ai réussi l'année dernière avec un stagiaire qui avait vraiment la gnaque. On a réussi à faire un petit bout de petit machin de visual, de basic access, LibreOffice, et on a transpiré une semaine pour faire un truc qui se fait en 2 minutes avec le VBA. Franchement, c'est
alors,
pas
VBA, c'est le langage de programmation visual basic access
for application.
Ok.
Voilà, qui est commun à toute la suite Microsoft Office. Et donc, en fait, même encore maintenant, en ayant appris à faire du basique, on n'arrive pas à le faire dans LibreOffice. C'est encore vraiment un truc au-delà du geek. C'est vraiment pour des professionnels, en tout cas des gens qui ont l'habitude de faire du basique, du développement très, très dur. Pourquoi est-ce qu'Access, on a commencé avec ça ? C'est parce qu'en fait, c'est de la bureautique. C'est de la bureautique évoluée. Et quand Pierre a commencé, quand moi j'ai...
Ah, il s'appelle comment ce Pierre ?
Pierre de Moulemont,
voilà.
qui est intendant dans un lycée parisien. Moi, je suis à Créteil actuellement. Lorsqu'il a commencé, pour lui, c'était juste, au lieu de faire des tableaux, je vais faire exprès de dire tableau Excel, hein, c'est ça concrètement dans le métier, ce que les collègues disent et entendent. Au lieu d'utiliser des tabuleurs, c'était de passer à la troisième dimension. Au lieu d'avoir juste des colonnes et des lignes, là, on va avoir des données dans tous les sens qui vont faire des petites étincelles dans une galaxie d'informations. Et c'est très, très puissant. Et l'intérêt, j'allais dire du point de vue du développement communautaire libre, collaboratif, c'est que les collègues qui ne sont pas des informaticiens, qui n'ont aucune compétence, ils avaient accès sur leur ordinateur. Une partie d'entre eux, en tout cas, ils avaient plus ou moins par hasard la version pro de Microsoft Office, donc avec accès dedans. Donc, comme c'était déjà sur leur ordinateur, ils n'avaient pas peur. Donc, ils ont d'abord fait tourner le logiciel qu'on leur envoyait, c'était mieux, mais sinon, il y a un lecteur gratuit qui n'aurait pas permis de développer. Mais en plus, souvent, ils sont allés regarder des trucs là, parce qu'ils cherchaient le tableau Excel pour le modifier, parce que des fois, le chiffre que sortait notre truc, c'était pas le bon, ils voulaient le corriger à la main. Ça risquait pas de marcher, mais on leur disait pas. Ils ouvraient le capot, en général, ils cassaient tout, mais des fois, ils avaient des idées. Des fois, ça changeait le logiciel ou des suggestions, même si eux-mêmes n'étaient pas réussis à l'appliquer. Et donc, parce que c'est ce logiciel pas fait pour les informaticiens, pas sérieux pour développer, pas fiable, pas stable, et puis bon, éthiquement pas du tout convaincant, mais parce que c'est cet outil-là, on a pu développer de manière collaborative.
Et créer une dynamique, en fait.
Exactement. Si on avait dit, vous voulez participer à notre démarche, vous allez apprendre à faire du PHP, vous allez vous installer le framework machin, on avait zéro collègue qui nous suivait. Là, ils y sont allés. Donc, ils ont commencé à modifier de temps en temps un bout de mise en page dans un formulaire ou dans un état. 3 fois rien, mais ils l'ont fait. Et certains se prenaient au jeu et ont été plus loin. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, après 5-6 ans de cette démarche, il y a à peu près que moi qui fais ça tous les jours. Mais on a quand même une bonne dizaine de collègues au niveau national qui, de temps en temps, ont été bien au-delà et nous ont dit... Dans ta base de données, il y a tel problème de relation entre telle table et telle table. Ta requête ici, elle n'est pas bonne. Sur des choses qui sont relativement intéressantes.
D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même un projet de redévelopper certains outils ou que pour les nouveaux développements, ce soit fait avec des outils de développement libres ?
Alors, notre philosophie initiale, c'était on a des données et on ne veut pas dépendre du ministère pour travailler dessus. Donc on voulait que ça soit sur le poste de travail. Et donc dans c'était bien logique d'avoir la petite application bureautique. Petit à petit, on se fait une raison et on se dit, bon oui, c'est vrai que maintenant on a tous un accès Internet à peu près correct. Et donc on peut envisager d'avoir des outils en ligne. Donc à partir du moment où on a des outils en ligne, on va passer à un autre mode de développement, un autre type de travail. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment faire. C'est-à-dire que à terme, la start-up d'État devrait pouvoir, enfin Open Academy, on devrait commencer à développer d'autres logiciels, mais ça ne sera plus la même chose, ça ne sera plus du collaboratif. Ça restera agile et proche de l'utilisateur, ce qui est la vraie innovation, surtout au ministère de l'Éducation nationale. Mais du point de vue technique, on ne va plus pouvoir espérer avoir des collègues qui participent.
D'accord.
Donc on commence à le faire aujourd'hui avec un très gros projet qui est en route depuis un an et demi maintenant et dont Pierre s'occupe à plein temps. Moi, je m'occupe aujourd'hui de la maintenance et de la continuation de la gamme des machins SCO, donc les logiciels sous Access là, qu'on propose aux intendants. Et Pierre, lui, aujourd'hui, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du laboratoire d'innovation 110 bis, puisque c'est le 110 rue de Grenelle, l'adresse du ministère, donc au 110 bis, ils lui ont donné les moyens pour embaucher 3 informaticiens des vrais, et puis des gros, des libristes purs et durs, des gens qui connaissent l'April, qui connaissent Framasoft et toutes ces choses-là. Et donc, qui sont en train de développer, alors je ne sais même pas sous quel langage, excusez-moi de pas, je ne suis pas très très peu associé au projet, mais en train de développer un système qui s'appelle Dossier SCO, et donc il s'agit de dématérialiser le dossier d'inscription au collège.
D'accord.
Donc, la description, et s'il y a des parents d'élèves ou des collégiens qui nous écoutent, ou des gens qui y étaient il y a peu de temps encore, ils connaissent bien le truc, c'est-à-dire que au mois de juin, là maintenant, on vous fournit une liasse de 5 ou 10 papiers différents avec, il faut remplir le prénom, le nom, l'adresse, etc. Comme si l'éducation nationale et le collège ne connaissaient pas déjà tout ça. Et on a tout ça dans les bases de données. Donc en fait, il s'agit tout simplement de permettre aux gens de se connecter, d'aller confirmer ces informations. Si on a besoin d'un justificatif, on le prend en photo avec un téléphone et on envoie ça au serveur et c'est marre, on n'a pas besoin d'en faire plus.
Bah écoute, Étienne, je te remercie. J'encourage évidemment tous tes collègues et aussi les parents d'élèves à s'intéresser à ce sujet. Donc le site web d'Open Academy, c'est openacademy.beta.gouv.fr. La référence est aussi sur le site de l'April. Est-ce que tu souhaites ajouter une petite phrase ?
On aimerait bien être mieux soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, mais pour Dossier SCO, il y a un bel effort là. J'espère que c'est le début. Voilà.
Eh bien, on encourage le ministère de l'Éducation nationale à mieux soutenir ce projet. Encore plus. Merci, donc c'était Étienne André, donc, qui travaille au ministère de l'Éducation nationale en tant qu'intendant dans un lycée. Bonne journée Étienne.
Merci Fred.
Nous allons faire une petite pause musicale, la dernière. Nous allons écouter Magdalena par Daniel Bautista. Et on se retrouve juste après.
Cause commune. Thank you.
Nous venons d'écouter Magdalena par Daniel Bautista, c'est également sous licence libre Creative Commons Attribution partageant les mêmes conditions. Les références sont sur les sites de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. Alors, nous avons normalement avec nous au téléphone Pierre Ficheux, informaticien, spécialiste en logiciel libre, en système embarqué. Pierre, est-ce que tu es au téléphone avec nous ?
Je suis au téléphone.
Alors, bonjour Pierre. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour parler de ton activité, mais pour nous parler de Patrick Sins. Donc, je vais faire une petite introduction. Patrick Sins, qui est né le 1er mai 1960, est malheureusement décédé le soir du 27 mai 2019 dans un accident de la route. Alors, pourquoi on veut parler de Patrick Sins ? C'est parce qu'il a joué un rôle très important dans la diffusion du logiciel libre en France et aussi des systèmes Unix. Comme il le disait lui-même, Patrick est tombé dans le chaudron d'Unix en 1980 lors d'une session d'été à l'université de Berkeley en Californie, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. C'est dans cette université qu'est née notamment la Berkeley Software Distribution, ou BSD, collection de logiciels de Berkeley, un système d'exploitation dérivé d'Unix, alors initialement pas libre, mais devenu logiciel libre à partir de 1989, et qui est à l'origine aujourd'hui de nombreux systèmes d'exploitation libre de la famille BSD. Unix est une famille de systèmes d'exploitation multitâche multi-utilisateur. Le développement a commencé dans les années 70. C'est un système très populaire que sans doute les gens ne connaissent pas, mais qui pourtant a donné naissance à de très nombreux systèmes, libres ou pas libres, utilisés aujourd'hui. Donc les variantes de BSD dont j'ai cité, donc FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU Linux, mais également macOS et d'autres systèmes. Patrick a introduit Unix à l'université Paris 8 Saint-Denis en 1981, c'est à l'université Paris 8 que j'ai connu Patrick Sins dans les années 90 où il était chargé de cours. Et toi Pierre, tu connais Patrick depuis 1989, tu m'as dit avoir démarré le logiciel libre grâce à son entreprise de l'époque, Axis, et par ta rencontre avec Patrick Sins. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre et un petit peu le parcours de Patrick Sins ?
Oui, alors c'était à l'époque, je travaillais à Bordeaux dans une société qui s'appelle Lectra, qui existe toujours, qui malheureusement maintenant utilise Windows. C'était une société qui fabriquait des machines de CAO et des machines de coupe pour l'industrie textile.
Alors c'est CAO, conception assistée par ordinateur.
Voilà, c'est ça. Et ils sont aujourd'hui leaders mondiaux dans le domaine. Et l'idée, c'était de passer d'un système d'exploitation maison qui était un petit peu dépassé à une version d'Unix qu'il était nécessaire de faire tourner sur des machines fabriquées par Lectra. On fabriquait nos machines, c'était un peu spécial, mais c'était la stratégie de l'époque. Et donc, moi je suis rentré dans cette entreprise en 1986, donc c'est avant 89 que je l'ai rencontré. Et donc je travaillais sur Unix chez Thales Avionics, et je cherchais une entreprise qui fasse du conseil sur Unix, qui soit expert en Unix, et j'ai trouvé Axis. Et je suis allé voir Axis, donc c'était Axis Design, hein, ne pas confondre avec Axis Digital. Et j'ai rencontré Patrick, je me vois encore la première rencontre, il y avait un bureau avec un capharnaüm épouvantable. Il était assis sur un énorme fauteuil de cuir Pullman. Ça changeait beaucoup de l'ambiance Thales en fait. Et donc j'ai eu un choc, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce qu'ils vont pouvoir m'aider ? Et donc j'ai rencontré des gens avec qui je collabore toujours, qui sont comme Loïc Nachari, des gens comme ça, donc qui est le président de la FSF Europe.
France.
France, pardon. Bon, ben maintenant, c'est presque pareil. Hein. Et donc, avec Loïc, on a fait le portage, et puis des gens de chez Lectra, bien sûr. On a porté Unix System 5.3.2, donc tu parlais d'Unix il y a quelques minutes, ça c'était la version officielle d'Unix, qui était faite par ce qu'on appelait Bell Labs à l'époque, qui en fait doit être Nokia aujourd'hui, quelque chose comme ça, après les rachats et les rachats. Et donc grâce à Axis, on a développé tout ça. Bon après j'ai quitté Lectra parce qu'ils sont passés sous Windows, donc ça ne m'intéressait plus. Et j'ai continué de travailler dans le libre, mais je dirais grâce à Patrick, grâce à Loïc et tous les gens qui tournaient autour d'Axis. Et donc j'ai travaillé pour Red Hat et après j'ai fini par créer une entreprise qui s'appelle OpenWine. C'est là où j'ai revu Patrick ensuite.
D'accord, donc tu l'as pas perdu de vue, mais alors Patrick, c'était quoi? C'était à la fois quelqu'un d'ultra brillant techniquement et en termes d'entrepreneur, il était comment? C'était à la fois les deux? C'était un mélange des deux?
Bah les deux. Alors j'ai jamais travaillé avec lui sur des sujets de développement, parce que c'était des gens. Lui il était directeur d'Axis, donc je travaillais plutôt avec Loïc et d'autres développeurs. Mais je l'ai revu. Jusqu'à il y a quelques mois, on se revoyait, il avait toujours plein de projets, il a un CV long comme le bras, il a tout fait, il a fait du développement au début, il a fait du management, il a fait de la création d'entreprise, il a même travaillé à Nevers pour le comité d'expansion économique autour du numérique, enfin des choses très différentes. Et il a beaucoup travaillé à l'étranger également, parce qu'en fait il était allemand de nationalité.
Oui.
Et il parlait évidemment couramment français et il a travaillé de nombreuses années à Barcelone, donc j'imagine qu'il parlait très bien espagnol également. Et il avait une caractéristique, les dernières fois où je l'ai vu, donc on se retrouvait dans un bar au Henri IV, le boulevard Henri IV dans l'11e. Il habitait pas loin et moi j'habite à Bastille. Donc. Et il écoutait des gens qui venaient parler de projets qui étaient bon pas forcément très intéressants. Il les écoutait avec le sourire. Alors que lui avait 30 ans d'histoire sur le logiciel libre, il écoutait des gens qui parlaient d'un projet pour piloter leur porte de garage et il leur parlait avec le sourire. Donc c'était quelqu'un d'ouvert à tout le monde, quoi. Pas du tout hautain, pas du tout élitiste. Ça, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel dans le domaine.
Oui, et en plus, comme tu le dis, là, il a un CV très long, c'est-à-dire qu'il a participé à de très nombreux projets. Alors. Notamment ces dernières années, spécialisé peut-être aussi dans le logiciel libre et les secteurs publics. Il a donné pas mal d'idées donc, à la Commission européenne. Il a fait partie de Mondriva, société française de distribution de logiciels libres. Comme tu dis, il a travaillé à l'étranger. Je crois qu'il a travaillé pas mal dans les pays arabes aussi, si je me souviens bien. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et qui a sans doute initié beaucoup de gens à la fois à Unix, à cet environnement de travail, de développement, et aussi au logiciel libre.
Oui, on commençait par moi. Moi et beaucoup de gens autour de moi, et donc moi je suis né en 62, alors j'étais un petit peu plus jeune, mais après il y a beaucoup de gens qui ont, j'imagine qu'à l'étranger, il a travaillé en Bolivie aussi. J'ai retrouvé une conférence dans les Émirats, il avait fait des conférences là-bas, enfin, c'est exceptionnel, c'est un parcours exceptionnel, c'est pour ça, c'est une immense perte pour la science, pour le logiciel libre, pour plus que ça. Outre pour sa famille, bien entendu.
Et plus récemment, il était président donc de l'AFUL, l'Association francophone d'utilisateurs de logiciels libres. Et c'était aussi un enseignant. C'est-à-dire que moi, je l'ai connu, comme je l'ai dit au début, en tant qu'enseignant à Paris 8. C'était c'était quelqu'un qui était aussi passionnant en tant qu'enseignant, qui a introduit Unix en grande partie en France avec d'autres et qui nous a transmis à la fois sa passion puis sa connaissance technique et comme tu le dis avec toujours une gentillesse, avec le sourire, c'est-à-dire voilà, toujours prêt à aider les autres, à ouvrir les autres vers des nouvelles perspectives. C'est quand même quelqu'un qui avait un esprit très 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 ouvert et qui entre guillemets pouvait voyager loin et donner des idées auxquelles on n'aurait sans doute pas pensé.
Oui, surtout cette capacité à discuter avec des gens d'un bon niveau technique, des experts et puis des gens qui étaient des débutants en fait. C'est ça le vrai talent, c'est ça la vraie gentillesse.
Oui, il s'adaptait aux fonctions du public qu'il avait en face de lui.
Donc ça va être compliqué. Enfin, moi, j'ai appris ça sur Facebook. Là, j'étais en congé la semaine dernière. Au début, je n'ai pas trop cru parce qu'on s'est échangé des messages sur Facebook il y a encore quelques jours. Et ça a été un vrai choc, quoi.
Comme beaucoup de gens, il y a eu pas mal de messages sur les réseaux sociaux parce que même si dans les gens du logiciel libre ou les libristes ne connaissent pas forcément tous et tout de son nom, en fait, il a depuis les années, on va dire, de peut-être 30 ans maintenant, il a joué un rôle quand même considérable dans la percée du logiciel libre, à la fois dans les entreprises, dans le secteur public, et puis il a initié plein de gens hein, et il a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Sur le site de l'April, on a mis une référence que vous trouverez un lien vers le site de LinuxFR qui fait un petit peu récapitulation de son parcours qui a été très divers, très varié. Et je regardais aussi une page LinkedIn où il y avait des références et surtout des gens qui commentaient le travail qu'ils ont pu faire avec lui. Et tous les commentaires étaient très, très positifs. Il y en avait une bonne dizaine dessus. Donc voilà, c'était vraiment très impressionnant. Malheureusement, la fin de l'émission s'approche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre ?
Bah, rajouter pas grand chose. Moi, je sais pas trop quoi dire dans ces cas-là. J'espère que son œuvre, qu'il y aura des gens qui seront toujours des gens comme ça, qui arrivent à faire des choses en dehors uniquement du contexte mercantile. Moi, je suis un industriel, donc j'ai créé une société. Là, je travaille pour gagner ma vie. Mais j'estime que le libre, c'est aussi travailler par passion et travailler pour échanger l'information, transmettre l'information. J'ai toujours cet état d'esprit. Je pense que c'est l'état d'esprit du libre. Et espérons qu'il y aura toujours des Patrick Zins dans l'avenir. Après lui, après nous. Voilà, c'est ce que je peux espérer.
Nous l'espérons tous. Bah, en tout cas, merci Pierre. Je te souhaite quand même de passer une bonne journée. À bientôt. Alors évidemment, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. Alors il va pas y avoir beaucoup d'annonces parce que je vois que 17h approche. Je vais simplement citer une phrase de Loïc Dachary dont a parlé Pierre tout à l'heure. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'il pensait de Patrick. Il m'a dit « Patrick m'a souvent fait rêver. Quand on parlait d'un projet, il voyait ou imaginait un développement. Avec Patrick, l'informatique, c'était toujours un peu magique et enthousiasmant, jamais triste. » Ni ennuyeux. Donc voilà, j'espère que d'autres personnes pourront suivre sa trace et que vous aussi, vous verrez une informatique joyeuse. Je réponds juste à la question sur celle sur Shares. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Eh bien, il y a les Geek Ferries, un événement donc les 8 et 9 juin 2019 à celle sur Shares en Loire-et-Cher. Vous allez sur le site de l'April et vous trouverez toutes les références. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine.